buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Rarement des élections législatives se seront tenues dans une atmosphère aussi lourde au Royaume-Uni. Le pays qui vient d'essuyer une nouvelle attaque terroriste s'apprête à élire ses représentants ce jeudi. Des législatives désormais presque exclusivement dominées par les questions de sécurité. Nous en parlons avec Marie Billon, notre correspondante à Londres. Bonjour Marie.
Bonjour Laurent.
Et malgré ces nouvelles attaques, la campagne, brièvement interrompue, a repris ce lundi, considérant que la démocratie prévaut.
Oui, Theresa May a dit dès dimanche que si la campagne était suspendue, il était hors de question de mettre la démocratie en pause. Comme il y a deux semaines, donc après l'attaque de Manchester, les politiques ont marqué une pause dans la campagne par respect pour les victimes. Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse à la tête du SNP, le parti national écossais, a estimé que personne n'avait l'appétit pour les chamailleries politiques habituelles pendant que les familles étaient en deuil et des blessés à l'hôpital. Cette fois-ci, par contre, les militants sur le terrain pouvaient, s'ils le voulaient, continuer à distribuer des tracts et faire du porte-à-porte. Autre différence, cette trêve n'a pas plu à tout le monde, notamment le parti populiste UKIP qui lui a refusé d'honorer cette pause. Mettre le quotidien en suspens, c'est laisser les terroristes prendre le dessus, a dit Paul Nuttall, le chef de la formation. Il faut aussi remarquer que quelques heures seulement après avoir annoncé cette trêve dans la campagne, Theresa May a fait un discours très politique devant Downing Street. Elle a presque déroulé un programme pour lutter contre le terrorisme. Le soir même, le chef du Labour, Jeremy Corbyn, a finalement lui aussi repris le cours de sa campagne pour accuser dans un discours la première ministre d'avoir fait trop de coupes dans le budget de la police et de protéger les Britanniques avec des bouts de ficelle. Alors d'habitude, les candidats tentent d'éviter la récupération politique, mais cette fois, comme il y a deux semaines, ce genre de précaution n'a pas été prise. Les accusations ont fusé de tous les côtés, travaillistes, conservateurs, UKIP, personne ne s'est privé de commentaires parfois acerbes.
Oui, au point que dans l'après-midi, Marie, le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, appelait Theresa May à démissionner. Le ton est un peu monté aussi chez des Britanniques eux-mêmes, qui derrière leur flegme légendaire, commencent à réclamer des mesures fortes contre le terrorisme. Sont-ils entendus des candidats, Marie ?
Il y a une vraie inquiétude chez les Britanniques, c'est la troisième attaque en moins de trois mois, mais l'esprit de défiance est toujours là, ils ne veulent pas modifier leur quotidien, pas céder à la peur, à la menace. Par contre, c'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question, les autorités peuvent-elles, devraient-elles faire plus pour lutter contre le terrorisme ? Certains Britanniques commencent en effet à penser que l'état de droit pourrait être en partie remis en question à l'image de cet homme.
Il faut trouver un équilibre entre droit et sécurité. C'est la sécurité de tous qui doit primer. C'est ce qu'a voulu dire la première ministre. Il y a un équilibre à trouver. Peut-être avons-nous trop donné d'importance au droit au détriment de la sécurité de tous.
Alors il est important de préciser que c'est un débat qui existe depuis longtemps et les conservateurs ont déjà pris plusieurs mesures que beaucoup ont accusées de ressembler à de l'espionnage industriel, notamment sur Internet.
Alors Theresa May a elle aussi changé de registre, elle promet une nouvelle loi antiterroriste.
En fait, elle a dévoilé une stratégie en quatre points. Il faut d'abord mieux inculquer les British values, les valeurs britanniques, le pluralisme et la tolérance notamment. Deuxièmement, il ne faut plus que les terroristes aient ce qu'elle estime être des espaces de refuge sur Internet. Les grandes compagnies du net et les réseaux sociaux doivent prendre les choses en main. Troisièmement, ces espaces de refuge ne doivent plus exister dans le monde réel non plus. C'est donc la remise en cause du modèle multiculturaliste britannique. Enfin, quatrièmement, il faut revoir la stratégie antiterroriste et donner plus de pouvoir aux services de sécurité et repenser les peines existantes pour les personnes accusées de terrorisme. Trop c'est trop, a dit la première ministre, les choses doivent changer.
Alors la question qu'on se pose aussi bien sûr Marie, c'est de savoir si ces attaques auront un impact prévisible sur les résultats des élections.
Cette campagne qui devait être dominée par le Brexit et qui a maintenant été endeuillée par deux attaques a pris un tournant inattendu, mais pour l'instant elle n'est pas plus respectueuse ou elle n'est pas moins clivante. La grande question est, cette vague d'attentats va-t-elle avoir une influence sur le vote des Britanniques ? Et les réponses sont partagées.
Cela fait des années qu'on vit avec la menace terroriste. Avant, les fondamentalistes islamistes, c'était les nationalistes irlandais. On a appris à vivre avec.
C'est absolument terrible ce qui s'est passé à Manchester. Mais je ne pense pas que ça aura des conséquences dans les urnes. Et c'est très bien comme ça.
Je pense que ça jouera en faveur des conservateurs, parce que Jeremy Corbyn est un peu faible en matière de sécurité, et à cause de son passé avec l'IRA.
Ce sera en tout cas certainement un scrutin sous haute surveillance, mais la menace ne devrait pas décourager les Britanniques de se rendre aux urnes.
Merci Marie Billon à Londres.
Livre.
En poignardant leur victime samedi soir dans le cœur de Londres, ils ont invoqué le nom d'Allah. Trois hommes parmi des milliers de jeunes Européens radicalisés. Il serait même plus de 10 000 à avoir rejoint le groupe terroriste État islamique en Syrie ces dernières années. Le recrutement se fait la plupart du temps sur les réseaux sociaux, à travers la propagande et une utilisation de versets du Coran sortis de leur contexte. Alors finalement, il y a quoi dans le Coran? C'est la question et le titre du livre que vient de publier l'islamologue Rachid Benzine. Avec le dramaturge Ismaël Saïdi, il a souhaité replacer le Coran dans son contexte historique pour dépasser les idéologies. Voile, djihad, violence, égalité homme-femme, aucun sujet n'est tabou. Lakshmi Lotha l'a rencontré à Bruxelles.
On parle de la question des mécréants, on parle de la question de la violence, du djihad, la question de la figure du prophète, la question de l'habit dit musulman. Et on essaye de déconstruire toutes ces représentations en abordant le Coran d'un point de vue strictement historique, en ramenant le Coran à son terrain premier, à savoir une société tribale, celle du 7e siècle, et avec la géographie, parce qu'on peut pas faire de l'histoire si on ne remplit pas trois conditions, un temps, un lieu et un groupe humain. Et quand vous effacez la chronologie, vous êtes vraiment dans l'idéologie.
C'est expliqué dans le contexte historique de l'époque.
Oui, c'est très important de décrire la société. Je crois qu'on ne décrit pas suffisamment la société. Et que pour lire le Coran, il faut d'abord commencer par la société et la géographie. Et ensuite, on verra que le Coran est en très très grande partie en adéquation avec cette société. Il ne peut pas bouleverser une société du jour au lendemain. Il y a des contraintes vitales, il y a des contraintes de vie.
Vous expliquez par exemple comment comprendre ce qui est écrit par rapport à la situation des femmes et des hommes.
Oui, il s'agit de bien comprendre que le Coran ne parle pas de femmes éternelles. Vous savez, le Coran est toujours un discours en situation. Donc on est en train de parler des femmes au 7e siècle, des hommes au 7e siècle, avec leur imaginaire et leur représentation. Donc il faut ramener chaque texte à sa société et ne pas mélanger les sociétés.
Est-ce que ce livre s'adresse aux jeunes qui se posent des questions, à leurs professeurs ?
Pour moi, ce texte-là va servir surtout à ce que des jeunes et des moins jeunes puissent le lire et apprendre des choses et à continuer à se poser des questions. C'est-à-dire que si on arrive à déconstruire la représentation, si on arrive à déplacer la question du jugement en disant « je vais faire du Coran un objet de savoir », si j'arrive à inquiéter mes évidences, je pense que ce livre-là aura fait le job.
Est-ce que c'est un outil parmi d'autres pour éviter l'embrigadement, la tentation de partir en Syrie ?
Ce livre-là n'a jamais été pensé comme un outil de déradicalisation. C'est très important de pouvoir le dire. Simplement, le Coran doit devenir un objet de savoir et pas simplement un objet de croyance ou un objet de fantasme comme nous l'avons aujourd'hui. Un livre ne pourra jamais, aller contre la diffusion de Facebook. C'est un outil si les gens veulent l'utiliser en tant qu'outil. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous développez la question de la distance critique, par rapport aux théories du complot, par rapport à la simplification, par rapport à la polarisation de nos sociétés, par rapport à ces fausses alternatives idéologiques islam-occident qui sont vraiment des concepts idéologiques. Si l'esprit critique qui se développe à partir de finalement il y a quoi dans le Coran peut être appliqué, oui. C'est-à-dire que ce qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est finalement cette distance critique et cet outil critique. Maintenant, si cet outil-là peut être utilisé par les éducateurs, les professeurs, pour lutter contre ce phénomène de rupture, de radicalisation, pourquoi pas? Mais encore une fois, il ne faut pas le cantonner à un outil de déradicalisation. C'est simplement un objet de savoir. S'il peut être utile à ça, tant mieux.
Finalement, il y a quoi dans le Coran est publié aux éditions La Boîte à Pandore. I love Poland. Poland. I love Poland. I love Poland. I don't believe you. I love Poland. En Pologne, un an et demi après l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur Droit et Justice, l'immense mobilisation citoyenne contre les dérives du pouvoir ne faiblit pas. Début mai, des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues pour défendre la liberté. D'autant qu'après les réformes contestées du tribunal constitutionnel, des médias et de la loi sur l'avortement, le président annonce un référendum en 2018 pour modifier la constitution. À Outch, l'antenne régionale du mouvement pour la défense de la démocratie, le CoD, est très active. Elle compte dans ses rangs une jeune avocate stagiaire, Michalina Engel. À 26 ans, elle n'a connu que la démocratie et compte bien la défendre. C'est un reportage de Frédéric Lebel.
Les réunions sont animées dans le local du mouvement pour la défense de la démocratie. Le CoD est à peu près aussi vieux que le gouvernement ultra-conservateur polonais, soit 18 mois. Ses membres ont de 25 à 70 ans. Michalina Engel est une des plus jeunes, mais elle a la maturité de ceux qui savent prendre du recul.
Moi, je suis née dans une Pologne libre et jamais je n'aurais imaginé qu'un jour j'aurais à la défendre. Elle n'était pas parfaite, cette démocratie. Elle avait des défauts, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour les anciens dissidents, c'est très dur à vivre. Ils ont déjà beaucoup donné de leur vie pour défendre la démocratie. Ils savaient qu'il y avait des améliorations à apporter, mais ils ne pensaient pas devoir à nouveau lutter. Et ça, pour eux, c'est très, très dur.
De fait, la lutte contre les dérives populistes et conservatrices du gouvernement Droit et Justice peut parfois faire penser aux luttes contre le régime communiste. Le nom CoD, le Comité de défense de la démocratie, s'est d'ailleurs largement inspiré du nom COR, le Comité de défense des ouvriers, à l'époque proche de Solidarnosc. Dans l'assistance, Wojciech Safranski, professeur d'université à la retraite, laisse traîner un sourire désabusé sur ce renouveau militant.
C'est très difficile d'intéresser la jeune génération à notre cause, parce que nous, les membres plus âgés, nous nous souvenons de notre cher vieux socialisme et de ses dérives. On est plus nombreux parce qu'on se souvient.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez subi le communisme, mais là, vous ne voulez pas subir PiS.
Oui, définitivement, je ne peux pas les supporter. C'est une question de bon sens qu'on perd là. C'est une folie tout ça. Si je voulais les qualifier, il faudrait que j'emploie des gros mots. Mais ici, on a instauré une amende de 5 zloty pour chaque gros mot. Alors je crois que si je voulais vraiment dire le fond de ma pensée, tout mon salaire y passerait. Je suis terrifié. On les regarde et on se dit, d'où ils viennent tous ces gens? C'est inimaginable.
...2016 a été une année très chargée en termes de militantisme. Tout a commencé d'ailleurs, pour être précis, dès décembre 2015, avec les manifestations contre la mise au pas du tribunal constitutionnel, la plus haute entité juridique du pays, celle qui peut faire passer ou enterrer un projet de loi, c'est dire son importance. Il y a eu ensuite les manifestations contre les licenciements des patrons des radios et des médias, et puis contre la tentative pour interdire totalement l'avortement, alors que la loi est déjà une des plus restrictives d'Europe. À chaque fois, Michalina était là, aux côtés de Mirek Michalski, le coordinateur du CoD à Outch.
Il ne faut pas lui demander de faire quelque chose. C'est elle qui demande ce qu'elle peut faire. Elle est avocate et elle nous aide beaucoup sur les questions juridiques. Mais s'il le faut, elle enfile un gilet pour le service d'ordre de la manif. Elle porte les drapeaux et elle est vraiment partout.
Michalina est wszędzie.
On rigole parfois beaucoup entre amis. On se dit qu'on a passé plus de temps à Varsovie pendant ces derniers mois que durant toute notre vie. Parce qu'il y a des semaines entières où on est en manif. C'était le cas au mois de décembre. On passait presque tous les jours, enfin plutôt, on passait toutes nos nuits devant le Parlement polonais.
Ce Ces gens-là, Michalina et deux autres militants, ont choisi d'aller directement dans la rue pour alerter les passants sur le programme du gouvernement dont le slogan s'intitule « Le bon changement ». Un programme populiste qui mélange savamment des valeurs morales très conservatrices et des prestations sociales généreuses, notamment pour les familles nombreuses.
On a écrit une lettre sous forme de tract qu'on adresse à un électeur lambda du PiS. Et nous voulons lui montrer que les conservateurs prétendent que leur État est généreux et social. Mais on veut démonter ce mensonge et expliquer que cet argent, il vient bien de quelque part. La nouvelle allocation familiale, elle existe parce qu'elle est financée par un nouvel impôt ou parce qu'on a enlevé des subventions à la culture ou à d'autres institutions. Un des succès du Parti conservateur Droit et Justice, c'est de faire croire à la population qu'ils sont porteurs de ces valeurs chrétiennes. Mais c'est pas du tout vrai, parce que tout ce langage, ce vocabulaire de haine qu'ils déversent en refusant d'accueillir les réfugiés syriens, ça ne ressemble en rien aux valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, ce serait plutôt de les aider.
Wydaje mi się, że wartością chrześcijańską powinna być pomoc takim ludziom.
Pour l'instant, la rue a réussi à faire reculer le gouvernement sur une de ses réformes phares concernant l'avortement. Et la Commission européenne a lancé une procédure pour la sauvegarde de l'état de droit, sérieusement en danger. Michalina veut y croire.
Je crois que je suis une optimiste invétérée. Bien sûr, j'ai des moments où je doute. Ce que je voudrais, c'est que l'Union européenne ne nous oublie pas, sous l'effet de l'ennui ou de la fatigue, ou parce qu'elle a d'autres soucis. Parce que si elle nous oublie, on restera alors tout seul avec notre grand problème.
L'Europe n'a prévu à ce jour aucune sanction financière ou institutionnelle. Quant au gouvernement polonais, il annonce déjà un référendum en 2018 pour modifier la constitution.
Le reportage de Frédéric Lebel en Pologne. Le portrait de Michalina est l'un des quatre à découvrir dès ce lundi sur notre site dédié « L'Europe et moi », tout attaché. .rfi.fr, des jeunes Européens confrontés au quotidien aux grandes problématiques actuelles, droits civiques, on vient de l'entendre, mais aussi la question des réfugiés, du réchauffement climatique et du chômage. Un générique qui rappellera quelques souvenirs aux moins jeunes d'entre nous, celui de Zorro, le justicier masqué tout de noir vêtu qui signe ses exploits d'un Z à la pointe de l'épée, bien sûr. Personnage romanesque, figure du justicier, né en 1919 sous la plume de l'écrivain américain Justin McCulley. Le vrai Zorro, à l'origine de la légende, serait en fait irlandais. Ou comment un jeune catholique a parcouru le monde en côtoyant à la fois les puissants et les plus opprimés, Julien Lagache.
Le vrai Zorro n'a au départ rien à voir avec le Mexique ou la Californie, puisque c'est à Wexford, dans le sud-est de l'Irlande, qu'il serait né en 1611 ou 1615. William Lamport est issu d'une famille bien établie, mais il doit fuir l'Angleterre de la Réforme, où il étudie à cause de son éducation catholique et de ses opinions trop tranchées. Il s'embarque avec des pirates, direction l'Espagne, terre d'accueil pour les Irlandais au moment des guerres de religion. William Lamport décide d'hispaniser son nom. Âgé d'une vingtaine d'années, il devient Guilaine de Lombardo, un jeune homme avec une réputation d'érudit et de polyglotte, mais aussi de guerrier qui se serait illustré sur les champs de bataille en Europe contre les protestants, ce qui lui vaut d'être introduit à la cour d'Espagne où ses talents sont vite remarqués, tout comme son goût pour les femmes. C'est alors qu'il est envoyé au Nouveau Monde vers la Californie pour une mission d'espionnage au nom de la couronne. Guilaine de Lombardo fréquente les hautes sphères de la société et noue diverses amitiés. En parallèle, le souvenir des persécutions qu'il a vécues plus jeune le rattrape. Le natif d'Irlande découvre la brutalité des tribunaux de l'Inquisition et la férocité du pouvoir espagnol envers les peuples indigènes et les esclaves noirs. Sa relation avec Madrid se fait plus ambiguë, il se met à rédiger des pamphlets contre les oppresseurs du peuple. Il aurait même écrit un projet de déclaration d'indépendance, raison pour laquelle il est arrêté. Pendant ses 17 ans de prison, Guilaine de Lombardo continue d'écrire, y compris une série de 900 psaumes en latin, mais il finit par être condamné au bûcher en 1659. Sa légende nourrit alors son histoire et réciproquement puisqu'il aurait inspiré plusieurs révoltes populaires au Mexique où sa statue trône au pied d'un monument national et il devient aussi un personnage de fiction traversant plusieurs œuvres jusqu'à ce que Johnston McCulley lui trouve un nouveau nom passé à la postérité, Diego de la Vega alias Zorro.
Ludivine Amado a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40, temps universel.